VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel, midi à Brazzaville. Le ministre kenyan des Finances, Henry Rotich, a plaidé aujourd'hui non coupable des accusations de corruption portées à son encontre en lien avec un projet de construction de deux barrages d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Monsieur Rotich et 15 autres responsables administratifs ont comparu dans la matinée devant un tribunal de Nairobi pour répondre de plus d'une dizaine de crimes financiers. Ils sont notamment accusés de fraude, d'abus de pouvoir et d'avoir accepté des pots de vin. Tous ont plaidé non coupables. Au Congo-Brazzaville, l'avocat de 13 jeunes trouvés morts dans un commissariat il y a un an a dénoncé aujourd'hui les lenteurs de la cour d'appel de Brazzaville dans l'examen du recours contre le jugement des 6 policiers. La justice congolaise n'avait pas proposé des indemnisations dans l'affaire. Il n'y a aucune volonté de l'État congolais d'accompagner les parents des victimes sur ce point. Il y a comme un déni de justice, a déploré Maître Steve Bagne de la partie civile. En République démocratique du Congo, la démission du ministre de la Santé, Oli Ilunga, continue de susciter des interrogations. Et hier, le docteur Ilunga a donné comme raison la décision du président Félix Tshisekedi de s'appuyer sur une équipe d'experts dans la lutte contre cette épidémie. Il a par ailleurs évoqué aussi le refus de l'expérimentation d'un second vaccin. John Lindon.
Le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, estime avoir été désavoué par la décision du président Félix Tshisekedi de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué 1737 personnes en un an dans l'est de la RDC. Jusque-là, un seul vaccin fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck a été autorisé pour être utilisé dans la riposte contre Ebola, soulignait lundi le bulletin du ministère de la Santé en indiquant qu'environ 170 000 personnes ont été vaccinées. Selon son entourage, le ministre Ilunga s'était opposé dans une circulaire à l'introduction du deuxième vaccin produit par le laboratoire belge Janssen, filiale de l'américain Johnson & Johnson. Dans sa lettre de démission, le docteur Oli Ilunga révèle qu'il serait illusoire de croire que le nouveau vaccin proposé par des acteurs qui ont fait preuve d'un manque d'éthique manifeste en cachant volontairement des informations importantes aux autorités sanitaire puisse avoir une incidence déterminante sur le contrôle de l'épidémie en cours.
Toujours en RDC, 12 civils, dont 2 enfants, ont été tués à la machette et par balle dans 2 attaques attribuées aux milices ougandaises musulmanes des forces démocratiques alliées, les ADF, dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons subi 2 attaques simultanées à Beni, territoire à Oisha Mabasele. Les ADF ont fait irruption dans l'agglomération. Dans l'agglomération, ils ont tué 9 civils et 4 blessés. Il y a 2 enfants parmi les victimes, a déclaré à l'AFP Donat Kibwana, l'administrateur du territoire de Beni. Au même moment, dans une autre localité, plus au nord, à Eregenti, le même ennemi a fait incursion. 3 civils sont tombés et 3 autres sont grièvement blessés, a ajouté M. Kibwana, précisant que les tueries avaient eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. L'armée a confirmé ces attaques. Au Cameroun, situation confuse hier soir à la prison centrale de Yaoundé, où les forces de défense et de police ont lancé un assaut suite à une journée de grogne des détenus, parmi lesquels des séparatistes anglophones et certains militants du MRC, un parti de l'opposition. À Yaoundé, les précisions de notre correspondant sur place, Emmanuel Jelintap.
Peu avant 20h temps universel, les forces spéciales ont lancé l'assaut contre les prisonniers installés dans la cour principale depuis les premières heures de la journée. S'en est suivi des tirs de balles et de gaz lacrymogènes dans l'enceinte de la prison. Il y a eu des tirs de sommation pour faire rentrer les prisonniers dans leur cellule, a confié sous anonymat une source de sécurité. Des flammes ont été également aperçues provenant de l'intérieur du centre pénitentiaire. Certains compartiments de la prison ont été saccagés par des prisonniers ainsi que des cellules où se trouvent certains anciens hauts dignitaires incarcérés pour des affaires de détournement de fonds publics, des actes de vandalisme diffusés en live sur les réseaux sociaux par les prisonniers. Une heure après l'assaut, des unités spéciales des forces de défense et de sécurité, des sources médicales ont fait état des blessés. Il s'agit des prisonniers, a confié une source sous anonymat. Lundi matin, des personnes interpellées en zone anglophone et actuellement en détention à la prison centrale de Yaoundé ont entamé une grogne pour demander leur liberté. libération immédiate et protester contre leur ration alimentaire. D'autres détenus du MRC, un parti de l'opposition, se sont joints à ce mouvement. Le gouvernement n'a pas encore officiellement communiqué sur la situation, mais après le retour progressif au calme, les autorités, le ministre de la Défense et le patron de la gendarmerie sont arrivés tard dans la nuit à la prison centrale de Yaoundé. Yaoundé, Emmanuel Jolta, VOA Afrique.
Un militaire gambien a accusé lundi, au cours d'une audition publique devant la commission Vérité et Réconciliation, l'ancien président Yahya Jammeh d'avoir ordonné l'assassinat il y a 15 ans de Deïda Haïdara, qui était le correspondant de l'agence France Presse, et reconnu avoir directement participé à son assassinat. Ce journaliste critique envers le régime de Yahya Jammeh a été tué par balle le 16 décembre 2004 à Banjul, au moment où il raccompagnait en voiture deux collaboratrices de son journal qui ont été blessées. Au Nigeria, au moins 6 manifestants chiites et un policier ont été tués hier dans des heurts à Abuja. Il s'agit d'un nouvel épisode de violence entre membres de ce groupe religieux et les forces de l'ordre. Abdourahman Dia.
Selon Abdullahi Mohamed Bello, un membre de l'organisation chiite, les manifestants marchaient sans violence et arrivés au niveau du ministère des Affaires étrangères, la police a commencé à tirer en l'air et sur la foule. Il dit avoir vu 6 corps, dont celui d'un mineur. La police a commencé à sortir en nombre et à tirer des gaz lacrymogènes et les manifestants ont riposté en lançant des cocktails Molotov et ont mis le feu à des véhicules de pompiers, a indiqué pour sa part un photographe de l'AFP. Un haut gradé de la police a été tué dans les heurts avec les chiites à Abuja, selon l'agence de presse nationale, qui a ajouté que le policier Omar a été tué par les manifestants en tentant d'empêcher les actions violentes et la destruction de biens. Le porte-parole de la police, Frank Mba, a publié un communiqué pour demander aux habitants d'Abuja, la capitale fédérale, de rester calmes. Amnesty International a aussitôt réagi, appelant les autorités à ne plus réprimer la manifestation chiite dans le sang. Les chiites demandent la libération de leur chef Ibrahim Zakzaki, détenu depuis décembre 2015.
En Libye, des combats meurtriers continuent de se dérouler aux portes de Tripoli entre les forces loyales au GNA, exécutif dirigé par Fayez al-Sarraj, et celle du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays, qui mène depuis le 4 avril une offensive pour conquérir la capitale. Le gouvernement libyen d'Union nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, a indiqué avoir repoussé hier une grande offensive des forces de Khalifa Haftar au sud de la capitale, faisant état de combats meurtriers. Le Parlement marocain a adopté hier soir un texte de loi prônant une ouverture linguistique dans l'enseignement qui a longtemps divisé la classe politique et suscite encore des remous dans les rangs du parti islamiste à la tête du gouvernement. La mesure prévoit l'enseignement de certaines matières, notamment scientifiques, en langue étrangère, principalement le français. Sa première adoption en Conseil des ministres mi-2018 avait déjà suscité de fortes résistances au nom de la défense de l'identité nationale. En Haïti, le président Jovenel Moïse a nommé lundi Frise William Michel comme premier ministre pour remplacer Jean-Michel Lapin qui a démissionné un peu plus tôt dans la journée, 4 mois après sa désignation. Précédemment cadre du ministère de l'économie et des finances, Frise William Michel, 38 ans, est le 4e chef du gouvernement de l'administration Moïse qui dirige le pays de la Caraïbe depuis 2 ans et demi. Le président afghan Ashraf Ghani a demandé aujourd'hui des éclaircissements aux États-Unis après que son homologue américain Donald Trump a déclaré qu'il pourrait très aisément gagner la guerre en Afghanistan, mais qu'il ne voulait pas tuer 10 millions de personnes. Le dirigeant américain a multiplié les déclarations fracassantes lundi à la Maison-Blanche, où il recevait le premier ministre pakistanais Imran Khan. Ses commentaires ont suscité colère et indignation en Afghanistan, où la population traumatisée par des décennies de conflits s'inquiète d'un retrait précipité des forces américaines et craint qu'il provoque le retour au pouvoir des talibans, voire une nouvelle guerre civile. Et puis, le président américain a indiqué hier avoir trouvé un accord avec l'opposition démocrate sur le budget, évitant ainsi la perspective d'une paralysie de l'administration fédérale jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Républicains et démocrates discutaient donc depuis plusieurs semaines pour parvenir à un consensus. Les appels se multipliaient pour que la Chambre des représentants approuve une telle entente avant ces 6 semaines de vacances qui commence vendredi prochain. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.